Bonjour à tous, vous écoutez Politique Numérique alias Pollen. Je suis Delphine Sabatier, aujourd'hui le débat est avec quatre pointures. On va parler ensemble des risques d'ingérence étrangère à la veille d'échéances électorales ou comment les pires stratèges politiques s'emparent des nouveaux outils de communication pour influencer les opinions et mettre à mal notre esprit critique. En studio, Laurent Cordonnier. Bonjour Laurent. Docteur en sciences sociales, directeur de la recherche de la Fondation Descartes, auteur de multiples rapports et papiers scientifiques, je vais en citer juste quelques-uns. Ce rapport « Comment les Français s'informent-ils sur Internet ? Analyse des comportements d'information et de désinformation en ligne », c'était pour la Fondation Descartes. Et puis on va citer évidemment ce rapport que vous avez écrit avec Gérald Bronner, commandité par le président de la République, qui a donné lieu à « Les Lumières à l'ère numérique ». Avec vous, Thomas Huchon, journaliste d'investigation. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Cher confrère, auteur, réalisateur. Pareil, je ne vais pas tout citer, mais j'avais envie de citer quand même comment Trump a manipulé l'Amérique. Ou encore Conspi Hunter, comment nous avons piégé les complotistes. Vous êtes également consultant, enseignant, spécialiste du web des infox et des théories du complot. Autour de la table également, Camille Grenier, directeur des opérations du Forum sur l'information et la démocratie. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous collaborez avec de nombreux gouvernements signataires du partenariat pour l'information et la démocratie, un accord intergouvernemental qui a été initié par Reporters sans frontières et qui publie un nouveau rapport pour un contrôle démocratique de l'intelligence artificielle. Ça fera partie évidemment de notre conversation. Et enfin, Romain Pigenel. Bonjour,
bonjour
Romain, directeur du développement des publics et de la communication à Universcience, institution publique qui réunit la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte. Vous êtes également enseignant en communication politique digitale à Sciences Po Paris et l'ancien directeur adjoint du service d'information du gouvernement en charge du numérique et conseiller du président de la République à l'époque de François Hollande. Absolument. Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce que, selon vous, on est à un moment vraiment crucial aujourd'hui pour notre démocratie face, justement, à ces stratèges politiques qui utilisent les outils du numérique, pas toujours à des fins très transparentes?
Je crois que tout va bien. Enfin, on vit dans une période hyper apaisée. Dans
Thomas.
Les informations de qualité circulent vraiment de manière très pondérée. Non, ça va pas du tout. On est dans un moment de panique totale. Et je crois que tous les manques en termes de régulation qu'on a pu observer depuis une dizaine d'années dans l'espace numérique et dans l'espace informationnel, eh ben, vont être encore plus amplifiés par l'apparition de l'intelligence artificielle et de la possibilité de fabriquer des contenus, de générer des contenus sans qu'ils soient vrais, mais en ayant l'air de plus en plus vrais. Mais en fait, le problème, c'est pas l'IA.
Mais là, tu parles au futur. C'est pas déjà un peu le présent?
Ah bah c'est déjà le présent. Ouais. Là, on a un journaliste de France 24 qui s'est fait usurper son identité en deepfake la semaine dernière. On a une campagne de Trump qui a lancé ses premiers visuels fabriqués par IA, où Monsieur Trump est soutenu par des dizaines d'Afro-Américains qui ont l'air de le trouver absolument génial, alors qu'il n'en est probablement pas. Enfin, on est quand même assez loin de la réalité là-dessus. Mais je crois qu'en fait, on est confronté à un problème qu'on n'a pas voulu régler depuis 10 ans, qui est la nouvelle forme de la circulation de l'information qui n'est pas régulée. Donc en fait, le problème, c'est plus les réseaux sociaux que l'IA.
Comment ça, c'est pas régulé?
Il n'y a absolument aucune forme de régulation concrète sur la circulation d'informations en ligne aujourd'hui, en tout cas pas du tout suffisamment. Les plateformes ne respectent pas ce qu'elles devraient respecter, on continue à les considérer comme...
Parce que du côté des médias, du côté de l'information contrôlée par les médias officiels, il y a cette régulation.
Alors moi, je n'utiliserai pas le terme de médias officiels.
Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, attention, je parlais avec un spécialiste de la théorie des complots.
Non, mais si on imagine l'idée de médias officiels, on peut parler de l'ORTF, on peut parler des médias russes, on peut parler de la Corée du Nord, j'ai aucun problème. Mais en France, il y a des médias professionnels et des désinformateurs professionnels. Mais il n'y a pas de médias officiels, ça n'existe pas. Sinon, il y aurait des médias officieux, et là, ça nous pose un autre type de problème.
Bon, est-ce que...
Peut-être pour nuancer un peu le tableau, oui, tout à fait, non, je suis d'accord avec les grandes lignes, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'en France, nos concitoyens s'informent, quand ils s'informent sur Internet, s'informent avant tout par le biais des médias traditionnels, et de façon extrêmement massive. C'est ce que j'ai pu montrer dans l'étude que vous avez citée, comment les Français s'informent sur Internet, où on voit que les grands médias traditionnels en France restent la source numéro une d'information des Français. Après... La difficulté, on va dire, c'est les réseaux sociaux. Parce que là, en effet, on ne sait pas très bien à quoi leurs utilisateurs sont confrontés en termes de contenu informationnel, puisque c'est très difficile à étudier. Simplement, chacun a un mur personnalisé sur lequel apparaît des posts qui lui sont propres, et on ne peut pas faire des mesures d'audience comme on le ferait sur d'autres médias. Mais sur les réseaux sociaux, on a bien l'impression, en effet, que la part d'informations de mauvaise qualité, trompeuses, voire manipulées, est plus importante que dans le reste de l'environnement informationnel, évidemment. Et donc, mécaniquement, le fait de s'y trouver, d'y circuler pour s'informer ou non d'ailleurs, mais d'y être exposé à des formes d'informations, de manipulation d'informations, augmente le risque d'être induit en erreur. Et ça, c'est ce qu'on observe, par exemple, dans d'autres études que j'ai pu faire sur l'information et la santé, ou l'information et
l'image. Alors, ça augmente le risque d'avoir de fausses informations, d'être confronté à la désinformation, mais est-ce que ça augmente pas aussi la possibilité d'être davantage informé, d'entendre plus de points de vue?
En tout cas, c'est pas tellement ce qu'on mesure, parce que quand je mesure, par exemple, la connaissance sur des questions de santé ou la connaissance sur des questions climatiques, j'observe que les personnes qui s'informent avant tout sur les réseaux sociaux ont de plus faibles niveaux de connaissance sur ces sujets, sont donc plus sensibles à des informations fausses qui circulent sur ces réseaux. Mais par contre, vous avez raison de souligner le fait que rien n'est mécanique. C'est pas parce qu'on est exposé à une information fausse qu'on va y croire. De même que c'est pas parce qu'on est exposé à une information vraie non plus qu'on va y croire. Il y a des facteurs individuels, des facteurs sociaux aussi, qui protègent ou qui rendent au contraire davantage sensibles à des informations fausses ou trompeuses.
Romain ?
Oui, je vais aussi un peu nuancer. Bon, Thomas a raison, c'est vrai qu'il y a une espèce d'accélération qui fait qu'on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, que les problèmes se multiplient dans tous les sens, mais en fait je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une révolution qui a en réalité plus de 20 ans, quasiment 30 ans, qui a été l'arrivée d'Internet, même avant les réseaux sociaux, et qui a fracassé, en fait, ce qui était avant le monopole de l'accès à l'information. Donc la dérégulation, elle est ancienne, et elle n'est pas que mauvaise, parce que... Et moi, ça me frappe toujours de voir comment, pour reprendre un anglicisme horrible, en 10 ans, on est passé d'un narratif à un autre. Dans les années 2000, le discours ambiant, c'était « Internet, c'est formidable, ça donne la parole à tout le monde, c'était l'époque des blogs ». C'était aussi toutes les utopies avec la démocratie participative qui allait être permise par ces nouveaux moyens. Il y a aussi eu toute cette idée qui était pas totalement fausse, mais pas totalement vraie non plus, que les printemps arabes avaient été permis par Internet, etc. Donc il y a tout ce discours-là qui était mirifique. Et puis depuis quelques années, et je crois que le point de bascule, c'est Cambridge Analytica, on a basculé, de mon point de vue, dans un discours qui est, de mon sens, pas beaucoup plus exact, mais qui est radicalement inverse, et où, finalement, tout est la faute Internet, les réseaux sociaux sont catastrophiques, etc. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus. Deux choses en réaction. Déjà, la propagande politique, elle a toujours existé, et comme dans toute course à l'armement, elle s'empare des nouveaux outils. Je ne suis pas certain que les stratégies d'influence à l'ancienne, par exemple, de lobby industriel ou autre, qui pouvaient payer des élus ou essayer de faire de l'infiltration dans les médias, étaient beaucoup moins efficaces que les techniques actuelles. Je pense que c'est un jeu du chat et de la souris. Je dirais pas un camp du bien et du mal, parce que c'est évidemment pas ça, mais il y a des gens qui essaient de faire d'informations sérieuses. Il y a des propagandistes de tous ordres, et ça va depuis la communication politique jusqu'à la propagande, et ils s'emparent des nouveaux moyens. Après, il y a aussi un autre sujet qui m'intéresse, et je pense qu'il doit être creusé, qui est en deux temps. C'est d'abord, quelle est l'efficacité de tout cela? Parce que, et moi je dis ça aussi en tant que communicant, d'abord politique, puis aujourd'hui dans le domaine scientifique et culturel, ça se saurait si la com, ça fonctionnait tout le temps à 100%. Et évidemment qu'il faut combattre les dérives, et surtout quand elles prennent la forme de stratégies d'État pour déstabiliser des démocraties, mais c'est pas aussi simple de dire on va arroser de vidéos et ça va transformer l'opinion, ça va faire basculer une élection. Et d'ailleurs, quand on regarde la littérature, qui est complexe, hein, parce qu'en fait, ça à la connexion des sciences d'information, de la sociologie, des sciences politiques, c'est compliqué d'arriver à établir, le poids précis d'une campagne numérique ou d'une campagne de communication en général. Et il y a un petit ouvrage formidable que vous connaissez sans doute, d'Hugo Mercier, qui est un chercheur en sciences cognitives, qui a sorti, je crois, il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle « Panier de la dernière pluie », et qui est... Alors, c'est un grand chercheur en sciences cognitives, mais il a fait un peu une revue de littérature de bonne vulgarisation sur tout ce qui démontre qu'au fond, on n'est pas si dupe, aussi crédule qu'on pourrait le croire. Alors c'est assez orienté, puisque la thèse d'Hugo Mercier, il veut aller à contresens du courant dominant, mais c'est intéressant de voir, il le rappelle, avec beaucoup de choses qu'on oublie parfois, que c'est pas parce qu'il y a propagande qu'elle fonctionne forcément. Après, évidemment, c'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle fonctionne pas totalement qu'il faut rien faire. Mais c'est pour ça que...
Mais toutes ces fractures aujourd'hui qu'on voit dans la société, est-ce qu'on peut quand même les attribuer aux réseaux sociaux, ou est-ce que c'est juste le reflet, finalement, de la réalité, de la colère populaire, peut-être, je ne sais pas, de la déchéance des démocraties.
Bah, c'est sûr que la démocratie, qui est un modèle par essence frustrant,
Thomas,
génère un peu ce sentiment-là. Mais je crois que là où nos systèmes d'information, nos systèmes de régulation, l'existence d'une presse professionnelle avec tous les défauts qu'elle peut avoir, permettait de limiter ces impacts-là, eh bien en fait, ces impacts, ils sont en permanence multipliés, amplifiés par les réseaux sociaux et par la nouvelle circulation de l'information. Le vrai problème, c'est pas tant que circulent des choses vraies ou fausses sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, on ne partage plus rien. C'est que comme on vit chacun dans une réalité enfermée dans laquelle on voit des choses qui correspondent à ce qu'on croit déjà un peu, donc c'est vachement difficile de se rendre compte qu'on est en train d'être manipulé, on est en train d'être radicalisé contre nous-mêmes, et la radicalisation, c'est un escalier, les premières marches, on ne les sent jamais, hein, donc on se rend pas compte qu'on est en train d'être radicalisé. Et en fait, le problème, c'est pas tant qu'il y ait plus de vérité, ça n'a jamais existé, je partage totalement ce que dit Romain et ce que dit Laurent là-dessus, mais je crois qu'il y a un moment, le problème, c'est qu'on partage plus les faits. Moi, le point de basculement, c'est pas tant Cambridge Analytica, même si ce truc-là est énorme, moi j'ai enquêté là-dessus, et à l'époque, personne ne voulait entendre parler de cette histoire.
Bah d'ailleurs, on ne peut pas formellement dire que Cambridge Analytica a fait élire Donald Trump.
Ah si, on peut le dire clairement.
J'ai lu des études qui contredisaient ce point de vue. Hein.
Mais bon. Effectivement, je ne crois pas du tout à ces
Thomas,
études-là.
Ouais. Thomas, vous en êtes convaincu.
Juste, je veux dire que le 21 janvier 2017, c'est ce jour-là que ça bascule. C'est quand la porte-parole, non pas du président, enfin du candidat Trump, mais de la Maison Blanche, vient expliquer qu'il existe des faits alternatifs. C'est ce jour-là que le monde bascule.
Alors, je voulais donner la parole aussi à Camille, parce que donc vous publiez, j'en ai parlé, un nouveau rapport sur le contrôle démocratique et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il vous semble là, justement, qu'on est à un point de bascule avec un nouvel outil qu'on a du mal à maîtriser, finalement ?
Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a, et ça a été dit déjà il y a 10-20 ans, c'est la disruption de la distribution de l'information. Là, on est arrivé à la disruption de la production de l'information même, où on ne sait plus de quelle façon est nécessairement produite l'information. Après, il y a les enjeux de circulation, d'amplification, ça a été dit. Il suffit de prendre le métro pour voir qu'on est tous dans des espaces informationnels. On est dans un espace commun qui est une trame de métro. Mais on est tous dans notre petite bulle. Et puis, il y a des personnes qui achètent des chaussures, d'autres qui regardent des recettes sur Instagram. Et tout le monde est dans sa bulle. Ça, c'est vraiment, il y a, je pense, un manque de commun aujourd'hui. Le rapport qu'on a publié avant celui sur l'IA, c'était justement sur le pluralisme et la curation algorithmique et comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions techniques ou de régulation pour assurer un peu plus de pluralisme et d'accès à l'information fiable. Sur l'IA, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est des entreprises privées, encore une fois, qui lancent leurs produits et puis on verra ce qui se passe. Et qu'il faut remettre certains garde-fous en place. Donc nous, on a publié notre rapport qui a été le fruit de 6 mois de réflexion d'un groupe de travail avec contribution de 150 experts à travers le monde. On l'a publié la semaine dernière depuis 5 villes à travers le monde. Et on...
Alors c'était fin janvier, parce que nous, on sera diffusé un petit peu plus tard.
Pardon, fin janvier et...
Fin février, pardon.
Ouais. Et on décline toute une série de recommandations à la fois sur la construction de ces modèles et de ces systèmes d'IA, leur déploiement, les cadres de régulation qu'il faut mettre en place, notamment sur la transparence, puisque aujourd'hui on ne sait pas vraiment comment ces systèmes d'IA sont entraînés et l'impact que ça peut avoir sur l'intégrité de l'information derrière. Et puis aussi, l'IA, c'est pas seulement l'IA générative, c'est aussi toute la curation qui est faite et l'analyse des données personnelles qui sont faites, et on en revient aux différents espaces qui ne sont plus tant des espaces communs, mais des espaces hyper personnalisés. Et je reviens juste, je regardais aussi là les premiers symptômes qu'on a sur des deepfakes. Et c'est vrai qu'on est quand même cette année dans l'année des élections. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont en 4. Voilà, ça dépend des chiffres. J'ai du mal à trouver le bon chiffre.
Ouais,
4, oui, c'est la moitié de la population. Et c'est vrai que c'est une année, 2024, quand même... assez crucial pour la démocratie en Europe. Ça, on est rentré là déjà dans la campagne, mais aussi à travers le monde. Il y a l'Indonésie, par exemple, qui est un pays ultra peuplé qui a ses élections. Et on voit que finalement, les deepfakes, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Il y a les premiers cas de phoning où on va où une IA prend la voix d'un président ou d'un candidat. pour dire non, on n'allait pas voter à telle échéance, mais le plus important, c'est en novembre. Donc, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi quand même la production de l'information qui est aujourd'hui tout à fait changée par ces nouveaux systèmes.
Mais alors, dans les recommandations que vous faites, je me suis arrêtée sur le mot authenticité d'un contenu. Comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui vérifier l'authenticité d'un contenu ?
Alors c'est un grand sujet, c'est assez marrant parce qu'on a commencé à publier notre rapport, puis il y a différents, c'est vrai que la technologie avance extrêmement vite. Il y a cette idée du watermarking quand même fait qu'on pourrait identifier et obliger finalement les producteurs de contenu à ce que ce soit tout à fait transparent avec les personnes qui sont exposées à ce type de contenu.
C'est-à-dire apposer en fait un filigrane qui permet de montrer que ce contenu a été généré par une intelligence artificielle.
Et puis il y a d'autres possibilités. C'est vrai qu'il y a, quand on est exposé à une information, il y a toute la discussion autour du fact-checking, mais qui en général a quand même assez moins de portée que le contenu initial. Et est-ce qu'on pourrait, et nous c'est une recommandation qu'on avait fait notamment dans le cadre des élections, si une personne est exposée à un contenu qu'on pourrait citer de désinformation, comment est-ce qu'on s'assure que les mêmes utilisateurs sont aussi exposés au fact-checking et au fait que voilà, cette information était fausse.
Alors, Laurent Cordonnier, vous allez participer, vous me l'avez confié, à une commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influence étrangère. Donc en France, on a conscience aujourd'hui des risques en pleine période électorale européenne ?
La conscience est en train de se créer en France. Il y a eu un peu de retard au démarrage de la part des autorités et aussi, il faut le dire, des services de renseignement qui ont, par rapport aux États-Unis par exemple, été un peu plus lents à réagir sur ces questions, notamment d'ingérence numérique étrangère. Et je pense qu'aujourd'hui, la conscience est prise. La difficulté va être de trouver les bons moyens, les bons leviers d'action, évidemment. Et je pense que ça repose la question qui était tout à l'heure sur la table et qui est vraiment centrale. Est-ce que la désinformation, ça fonctionne ? Parce que c'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Est-ce que, je l'ai indiqué au début, être exposé à un contenu faux, ça n'a pas un effet mécanique sur nos croyances, mais ce qu'il faut bien considérer, et d'ailleurs mon collègue et ami Hugo Mercier fait très bien de le rappeler dans son livre, il y a une abondante littérature qui montre qu'on est loin d'être naïf. Les populations, pour peu qu'elles aient un peu d'éducation, sont en général capables de séparer le bon grain de l'ivraie informationnel. Mais par contre, la question du fonctionnement de la désinformation, c'est que vise la désinformation, et notamment les ingérences numériques étrangères. Qu'est-ce qu'elles visent à faire ? Si l'idée, c'est de se dire, elles veulent nous faire gober un message particulier, probablement que ça marche mal. Par contre, si l'objectif de la désinformation et des ingérences numériques étrangères, c'est de créer du doute et de polariser la société cible, en fait, de ces attaques, en général une démocratie libérale, alors là, on peut vraiment penser que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est bien ce qu'on voit avec les campagnes russes, notamment, qui ont attaqué la France pendant la période des Gilets jaunes, déjà, notamment, mais avant, et qui se continuent depuis, c'est que ces campagnes de désinformation ont pour objectif d'appuyer sur des lignes de fracture qui sont préexistantes au sein de la société dans le but de les renforcer. Et là-dessus, on peut penser, on a pas mal d'études qui laissent en tout cas penser que fréquenter davantage les réseaux sociaux, des réseaux comme X, ex-Twitter, augmente en effet la polarisation affective, c'est-à-dire le niveau auquel vous détestez le camp adverse. Et d'ailleurs, il y a des résultats assez amusants qui montrent qu'on a tendance à surestimer la détestation du camp adverse à notre égard. Et comme tout le monde fait ça, on a l'impression que tout le monde se déteste à la fin. Et c'est évidemment pas très bon pour des questions de cohésion nationale. Et on voit bien que ces fractures, quand elles sont amplifiées dans des sociétés qui sont confrontées à des questions aujourd'hui de guerre à leurs portes, aux portes de l'Europe, etc., c'est évidemment l'objectif visé et l'objectif qui peut fonctionner par des campagnes, pour le coup, de désinformation ou en tout cas d'amplification de certains phénomènes internes.
Mais quand on est capable d'identifier justement ces campagnes de désinformation, ça veut dire qu'on est capable de les stopper, Thomas ? Qu'est-ce qu'on fait face à ça ?
Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh oui, non, mais enfin, là, il y a une commission d'enquête qui est lancée, mais ça veut dire que derrière, il va y avoir des décisions à prendre.
Mais on a un vrai problème.
Tout le monde veut réagir, on y va.
On a un vrai problème, c'est que tout ça, c'est très difficile à remonter. C'est-à-dire qu'il s'agit d'opérations d'influence, bien souvent secrètes, menées par des agences de renseignement. Donc, on n'est pas exactement sur des gens qui ont toujours pignon sur rue. Ça a été le cas avec la création d'un certain nombre de médias. Je pense à Russia Today, à Sputnik, qui ont été des agents de la déstabilisation de la démocratie française pendant des années, en essayant de se faire passer pour des journalistes, c'est-à-dire en revendiquant un certain nombre de valeurs journalistiques journalistique de manière un peu lunaire, mais bon, c'est aussi ce que permet finalement ce marché complètement dérégulé de l'information aujourd'hui. La seule vraie manière de se prémunir contre ces opérations d'influence, c'est de développer l'esprit critique et la résilience dans la société. Malheureusement, c'est pas si facile que ça. Et
il va falloir vous parler de marché dérégulé. Il faut quand même mettre en place des politiques publiques aussi.
Ah mais oui, c'est sûr que ça serait beaucoup plus difficile pour les Russes de foutre le bazar dans nos démocraties si les réseaux sociaux respectaient le fait qu'ils sont des médias et donc ils sont responsables de ce qui est diffusé sur leur page.
Et pas de simples hébergeurs. C'est
bah ça. Oui, il y a un moment, il va falloir arrêter de considérer que quelqu'un qui éditorialise le contenu pour vous, qui gagne de l'argent avec de la publicité et qui vous diffuse de l'information n'est pas un média. Et à un moment, il va falloir qu'on comprenne ce truc-là et qu'on arrête de
dire... Alors, ils ont des obligations qui s'imposent aujourd'hui
de modération. Ils n'ont visiblement pas l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires publicitaire dans notre pays, ce qui est la majeure partie de l'argent qu'ils gagnent. Ils n'ont pas l'obligation de répondre systématiquement à la justice française quand on les interpelle sur des campagnes de harcèlement qu'on peut subir. Moi, c'est mon cas depuis des années. Je suis injurié, menacé de mort sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. J'ai beau faire des procédures de manière assez régulière, il ne se passe jamais rien. Donc il y a un moment où tout ça pose quand même un vrai problème. Et enfin, il y a un moment où on ne peut pas laisser des entreprises étrangères qui ont des lois qui ne correspondent pas aux nôtres foutre en l'air nos démocraties. On ne peut pas rester assis à regarder ce qui se passe. C'est pas possible. Il va falloir que les politiques, on est dans politique numérique, il va falloir que les politiques comprennent qu'ils ont plus d'intérêt à réguler Facebook qu'à faire un live sur Facebook eux-mêmes. En réalité, il faut qu'ils comprennent que le jeu de la démocratie, c'est pas uniquement de décider eux quand ils veulent parler à leur communauté et potentiellement déclencher des raids numériques sur les gens qu'ils détestent. Il va falloir qu'on remette le truc au centre de la table. Il y a un moment, il faut un arbitre. On peut pas laisser les équipes continuer comme ça. Et donc, moi, j'attends cet arbitre avec impatience.
Romain, vous vouliez réagir et puis on va parler de l'esprit critique.
Ben justement, ouais. ça fera le lien. Non, je crois que il y a effectivement il y a que faire face à ces campagnes des informations. Il y a trois niveaux de réponse. Déjà, il y a le niveau du réponse sur le plan des médias au sens technique, c'est-à-dire des vecteurs eux-mêmes. Alors, soit avec des solutions technologiques comme vous l'évoquez, c'est-à-dire le watermarking, etc. Moi, ma conviction profonde, c'est que ça sera malheureusement toujours un peu une course entre le chat et la souris et qu'il y aura toujours un temps d'avance pour le fraudeur. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, mais bon, il y a cette piste-là. Il y a la piste de la régulation, je vais pas y revenir, elle a été évoquée. Je trouve quand même que les choses avancent lentement, mais lentement dans le bon sens, notamment l'Europe, qui est une machine lente mais puissante, commence à poser des jalons avec le Digital Market Act qui vient de rentrer en action, etc.
Donc bon. Et le DSA.
Voilà, et aussi. Donc, je trouve quand même plutôt l'Europe joue un rôle intéressant. Après, il y a un deuxième plan qui est le plan de la production de contenu. C'est vrai que on peut avoir le sentiment que souvent les désinformateurs ont un temps d'avance. Et ça, je le crois, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, pour ce qui est des informateurs, je dirais, non étatiques, c'est un fait historiquement vérifié. Comme ils n'avaient pas accès aux canaux de communication traditionnels, ils ont été les premiers à se jeter sur Internet. Et c'est pour ça, quand on regarde, y compris les phénomènes complotistes, sectaires, extrémistes, ils ont souvent eu un temps d'avance dès les années 2000 sur la présence sur le web, parce que, justement, ils avaient compris que c'était la porte d'entrée qui leur permettait de contourner le système, mais qui existait bien, puisqu'il y avait un système médiatique auquel, heureusement, ils n'avaient pas accès. Et là-dessus, moi, le constat que je fais depuis 15 ans et contre lequel je me bats dans tous mes postes successifs, c'est quand même le retard à l'allumage de la puissance publique au sens large pour arriver à, et je vais prendre un terme excessif à dessein, inonder de contenu Internet. Parce qu'on est dans une bataille de trouvabilité des contenus. Et à un moment, alors sans rentrer dans des considérations techniques que par ailleurs les auditeurs connaissent, mais si on n'a pas des contenus nombreux et bien optimisés, on ne remonte pas. Alors après, sinon, on peut choisir un autre biais qui est le biais de la censure, et on peut dire c'est notre voie, dire finalement il faut pourquoi pas fermer ces réseaux. Mais je dis ça sans rire, mais si on dit ils sont ouverts, il faut les réguler, mais il faut jouer le jeu. Et ça, le problème, c'est que, alors ça va mieux, mais je vais prendre simplement un exemple.
Autre voie, c'est devenir nous-mêmes des désinformateurs pour contrer les propagandes.
Des réinformateurs communistes.
Non, mais c'est envisagé aujourd'hui. Aux États-Unis, ils le font.
Un exemple très concret, et finir si vous voulez bien. Je me souviens, en 2016, congrès de lancement de Santé publique France, donc, qui est l'opérateur que vous connaissez, et j'avais fait la démonstration en direct. Quand vous regardiez sur YouTube, vous tapez « vaccin », les 20 premiers résultats étaient toutes des vidéos anti-vax. Aujourd'hui, c'est mieux. Mais parce que pourquoi ? Parce que heureusement, les centres de culture scientifique, comme celui que je représente, Universcience, les institutions scientifiques, commencent par exemple sur les vaccins à produire des contenus. Mais on voit bien qu'il y a un retard à l'allumage. Donc là-dessus, il y a de toute évidence, ça va mieux, mais ça ne va pas encore assez bien. Et moi, quand c'est un débat que j'ai souvent, j'entends ou je vois des universités qui disent on va fermer notre compte Twitter pour faire mal à Elon Musk. D'abord, ça ne fait pas mal à Elon Musk. Et je pense que c'est une décision catastrophique. Ouais. Parce que selon un vieil adage, quand partent les dégoûtés, restent les dégoûtants. Et donc, quand il y a un terrain, il faut l'occuper. Ou alors, il faut couper le terrain. Puis le troisième vecteur de réaction, c'est évidemment les individus, les récepteurs eux-mêmes. Avec là, en effet, l'importance de développer l'esprit critique. Alors, comme vous le savez, c'est en partie pour ça que je suis invité. On a, à Universcience, lancé un programme qui devient cette année nationale, avec une cinquantaine d'opérateurs, centres et musées de sciences, bibliothèques, qui sont des super acteurs de terrain sur l'éducation aux médias. On le dit trop peu, mais heureusement, c'est souvent parfois dans des territoires peu équipés culturellement. Il y a des bibliothèques qui font un super travail. C'est arriver à développer justement l'esprit critique. L'esprit critique, c'est quoi ? C'est la capacité à trier et qualifier l'information pour se construire son opinion de manière libre et éclairée. Mais l'esprit critique tout seul, ça ne suffit pas. Il faut aussi le compléter par une culture scientifique. Pourquoi ? Parce que si vous êtes uniquement dans un esprit super critique, ça peut donner au bout du compte ce qu'on voit et ce que Thomas connaît bien, qui est le complotisme, puisque d'un certain point de vue, certaines formes de complotisme, c'est un hypercriticisme. Mmh. Donc si on ne sait rien et qu'on critique tout, on peut se retrouver dans une forme de paranoïa. C'est pour ça que nous, ce qu'on défend à Universcience, Cité des Sciences et l'Industrie, Palais de la Découverte, c'est l'idée de dire il faut développer l'esprit critique grâce à l'éducation aux médias, grâce à l'enseignement de la méthode scientifique, parce que la méthode scientifique expérimentale, c'est aussi une manière parallèle à la méthode journalistique d'arriver à analyser les faits, construire une opinion de manière fondée. Mais il faut aussi derrière développer la culture scientifique, parce que sinon, si on doute de tout, après tout, moi, qu'est-ce qui me permet de savoir, je ne suis pas ingénieur en bâtiment, que les tours du World Trade Center n'ont pas été dynamitées par le gouvernement américain. Si je pars de rien, d'aucune compréhension sur ce que c'est qu'un consensus scientifique, d'aucun fonds scientifique et technologique, je peux douter de tout. Et l'esprit critique, ce n'est pas douter de tout le temps, c'est savoir bien douter. Donc voilà, en tout cas, je pense ce qu'il faut arriver à développer.
Alors, vous allez publier les résultats du... Donc, c'est le deuxième baromètre de l'esprit critique.
Le troisième dans
quelques
jours.
Troisième, pardon. Donc, dans quelques jours. Pouvez-vous nous dévoiler quelques chiffres, déjà ? Qu'est-ce qui en ressort ? Comment on s'en sort, nous, en France, quant à l'esprit critique ?
Alors, je vais pas redire ce qu'a dit Laurent Cordonnier, parce qu'il y a plein de choses qui sont concordantes entre nos études. Quelques faits quand même massifs. D'abord, alors, c'est du déclaratif, évidemment, mais quand on interroge les répondants sur leur manière de discriminer l'information qui est bonne, moins bonne, etc., ils sont plutôt bons. Mais il y a un élément sur lequel ils se plantent toujours, c'est sur l'importance de se méfier de ses propres intuitions. Et quand on demande, on a un questionnaire, dans la partie de notre questionnaire, on a une question, on demande pour vous, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique ? Comment qualifiez-vous la bonne information ? Donc les réponses évidentes du type « regardez la source de l'émetteur », etc. Bon, les gens en général répondent avec un score haut, mais quand on leur dit « est-ce que pour vous, l'esprit critique, c'est se méfier de ses propres intuitions ?», il n'y en a que 18% qui répondent « oui ». Et ça, nous, on fait lien avec la problématique des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a une très très faible connaissance ou une mauvaise connaissance, justement, dans le grand public de la problématique des biais cognitifs. Et il faut de toute évidence, là-dessus, notamment au niveau de l'éducation primaire, mais aussi dans la formation professionnelle, mettre le paquet sur cette question, parce qu'on voit bien que là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Un autre élément intéressant, c'est que ça va pas si mal que ça chez les jeunes. Je sais qu'il y a d'autres études qui ont pu sortir des résultats catastrophistes il y a un an pour dire les jeunes sont complotistes, croient que la Terre est plate, etc. Bon, étude qui pose plein de problèmes méthodologiques, mais je ne rentrerai pas dans ce genre de débat. En revanche, nous, quand on interroge plus spécifiquement les 18-24 ans, on voit que, par exemple, ils sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus actifs par rapport à la pratique scientifique et à la formation scientifique que leurs aînés. En revanche, et ça c'est un point d'attention, mais j'apprendrai rien, la hiérarchie des sources d'information et de la confiance qu'ils portent aux sources d'information est radicalement différente. C'est-à-dire que sur l'ensemble du panel, quand on demande comment vous renseignez-vous, ce qui ressort, c'est Internet en numéro 1, la télévision à peu près au même niveau, 60-70%, et les réseaux sociaux ne comptent que pour 30%. Alors que quand vous regardez sur les 18-24 ans, on est sur l'entourage qui compte pour 70%. Ça, on y pense rarement, mais c'est l'entourage et la première source d'information.
Ah oui.
Avec derrière Internet à 67%, les réseaux sociaux à 54%, et la télévision s'effondre à un peu plus de 30%. Mmh. Et quand vous leur demandez à qui faites-vous confiance, sur l'ensemble du panel, on a radio, Internet, télévision qui tiennent le haut du panier. En revanche, chez les jeunes, c'est Internet, l'entourage, les réseaux sociaux et la télévision s'effondrent. Mmh. Donc on voit que les jeunes d'aujourd'hui étant les vieux de demain, par construction, il faut évidemment revoir beaucoup de choses sur la manière dont on conçoit les stratégies d'information, et je reviens à ce que je disais, mettre le paquet sur les réseaux sociaux et sur Internet, à la fois pour les réguler, mais aussi pour y être présent quand on est la puissance publique.
Ouais, je voulais juste faire réagir Camille, parce que...
Beaucoup de choses.
Vous parlez justement aussi de la problématique des algorithmes de recommandation. Ouais. Alors, c'est pas l'entourage, mais c'est une forme de nouvel entourage, finalement.
L'entourage technique. Juste peut-être pour réagir à ce que disait Romain, c'est... Il y a cette question de où est-ce qu'on met la responsabilité ? Est-ce qu'on met la responsabilité sur les individus qui reçoivent de l'information ? Il y a tous les programmes d'éducation aux médias, notamment. Où est-ce qu'on met la responsabilité sur les plateformes, les réseaux sociaux qui distribuent l'information en se nourrissant de nos données personnelles, puisqu'ils vont voir que, selon nos intérêts, un certain type de contenu va être poussé ou non. Je pense que Romain parlait aussi au début de l'évolution du narratif. On est passé d'un narratif qui était très, il y a 5 ans, sur le contenu lui-même, comment est-ce qu'on enlève les fake news, comment est-ce qu'on cure, comment est-ce qu'on laboure la mer, à une approche beaucoup plus structurelle aujourd'hui. Et nous, on a posé ça il y a 5 ans, c'est quels doivent être les principes qui régissent ce bien commun qu'est l'espace de l'information et de la communication, avec des principes de transparence, de promotion de la fiabilité de l'information, de responsabilité ou de revabilité des acteurs, etc., etc. Et quand on regarde cet aspect structurel ou systémique, on se rend compte que, en effet, la propagande, la désinformation, la rumeur, les contenus haineux dans la rue, ça a toujours existé, mais qu'aujourd'hui, elles sont un peu au centre du village, et que la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on remet les producteurs d'informations qui respectent les normes éthiques et professionnelles du journalisme au centre. Et là, Reporters sans frontières, nous, c'est une des grandes recommandations qu'on a développer la Journalism Trust Initiative, désolé pour les anglicismes, qui est en fait l'idée empruntée de nombreux secteurs économiques et industriels, qui est l'idée d'un standard qui n'est pas sur le contenu. L'idée, c'est pas de faire la distinction entre le vrai et le faux, mais ce qui est plutôt sur les processus de production de l'information. Parce que produire une information, ici, on est dans un magnifique studio, ça coûte quand même de l'argent, ça coûte de l'investissement. Thomas le sait bien. Par contre, quand vous êtes tout seul dans votre garage avec un ordinateur IA ou non pour propager n'importe quel type de contenu, sans enquête, sans vérification des faits, ça vous coûte quand même beaucoup moins d'argent. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on redonne un avantage comparatif à ces sources, à ces producteurs d'informations fiables. Et donc là, il y a l'idée du standard. Et nous, ce qu'on demande...
Qu'il faudrait pouvoir partager avec les plateformes numériques.
Exactement. Oui. Et surtout, ce qu'on demande, et malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont un peu réticentes, ouais. C'est d'utiliser...
Non, pas du tout.
Non, mais quand on touche à leur business model, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est que, justement, dans leurs algorithmes de curation, elles intègrent les données qui sont issues de ce standard pour donner un avantage comparatif à ces sources réputées fiables à travers un standard qui est audité, etc. Je reviens juste...
Est-ce que le politique a à se mêler de ça ou pas ?
Le politique peut... Moi, je pense que c'est... Enfin, le politique doit... Il y a une distinction aujourd'hui entre l'intérêt public et l'intérêt du public. Mmh. Et l'intérêt public, c'est l'intérêt général. Et là, il est tout à fait légitime de poser des cadres de régulation. Les plateformes, ce qui les intéresse, c'est l'intérêt du public. C'est notre intérêt à nous, avec nos instincts,
c'est
nos
peu leur intérêt à eux qui les intéresse quand même plus.
Leur intérêt économique.
Et je pense que poser des obligations aux plateformes de promotion de la fiabilité de l'information, c'est en ce moment pas mal repris, notamment dans le, désolé encore pour les anglicismes, l'European Media Freedom Act, où justement ce GTI devrait a priori être inclus. Et donc, poser un cadre, encore une fois, pas sur le contenu, mais sur la structure de l'espace informationnel, de la façon dont on produit, partage, dont on a accès à l'information, c'est l'histoire des démocraties. Il y a toujours eu des cadres qui... la loi de 86 en France, par exemple, il y a toujours eu des cadres qui régissent ça. Les démocraties se sont bâties sur ces cadres démocratiques. Et on pouvait être d'accord ou pas d'accord, mais l'avantage, c'était qu'elles étaient transparentes. Et que si on n'était pas d'accord, on pouvait voter. Et puis, les lois sont transparentes. Aujourd'hui, les lois qui régissent notre espace informationnel, c'est les lois qui sont définies à la Silicon Valley par quelques entreprises privées qui n'ont en effet, comme disait Thomas, que d'intérêt leur valorisation capitalistique.
Laurent.
Oui, en effet, je pense qu'il ne faut pas chercher à opposer l'intervention sur l'environnement informationnel, la régulation de ce milieu-là, et puis les interventions qui visent à renforcer la résilience de la population. Je pense que c'est deux pistes qu'il faut suivre en même temps. Et pour ce qui est de question de la résilience des populations, donc la formation à l'esprit critique, qui est un terme qui est très délicat, en effet, parce qu'il a été beaucoup dévoyé. On peut imaginer que c'est la tabula rasa cartésienne. En réalité, il faudrait douter de tout, etc. Et en réalité, ça, c'est une autre définition du complotisme, si l'on veut. Et une définition correcte de l'esprit critique, c'est vraiment considérer et réaliser qu'on est tous dans un état de dépendance épistémique. Je dépends du témoignage d'autrui pour savoir quoi que ce soit sur le monde. S'il y a pas un journaliste en Ukraine pour me dire qu'il y a une guerre, j'en sais rien, etc. Et une fois qu'on a réalisé que ce que l'on sait, on ne le sait quasiment jamais par nos propres sens et par nos propres expériences, on réalise qu'on a besoin de faire confiance pour savoir quoi que ce soit sur le monde. Et donc, on réalise aussi par rebond l'importance d'attribuer sa confiance sur des bases rationnelles. Et des indices comme le GTI, par exemple, comme une note de non pas de fiabilité de l'information, mais de respect de certains critères de création de l'information, de certaines normes, etc., ça peut être un indice tout à fait fiable pour l'individu, mais aussi comme levier pour, par exemple, les réseaux sociaux, s'ils veulent jouer le jeu. Alors, ils le voudront quand on décidera de l'exiger de leur part. Et pour ça, le Digital Services Act ouvre des fenêtres d'opportunité. Parce que ce règlement au niveau européen permet d'avoir des exigences de résultats à l'égard des plateformes, pour peu, et le pour peu est vraiment central, que le régulateur national, le français en ce qui nous concerne, décide de jouer le jeu et de mettre en avant ce levier. En France, c'est l'ARCOM. L'ARCOM a été timide sur un certain nombre d'applications jusqu'à présent de ce qui concerne l'audiovisuel. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, je le constate. Je peux espérer par contre que l'ARCOM sera plus assidu à faire respecter le Digital Services Act au sein des frontières française. Et ça, c'est vraiment une volonté qui relève pour le coup clairement du politique. Est-ce qu'on veut utiliser ce levier qui nous est offert par l'Union européenne pour réguler l'information sur les réseaux sociaux? Et je pense que c'est l'occasion à ne pas rater, en quelque sorte. Et c'est vraiment une occasion qui peut avoir des effets importants, parce qu'on peut tout à fait imaginer que l'ARCOM puisse, par le biais du Digital Services Act, presser les plateformes pour mettre davantage en avant des contenus de qualité, des contenus informationnels de qualité, quel que soit le sujet, plutôt que de chercher à censurer, à modérer ou à faire disparaître certains postes. Je crois qu'il est plus efficace de mettre en avant des contenus de qualité. C'est un peu ce que Google a fait, comme il a été rappelé. C'est un peu
Il y a deux pièges. Il y a le piège de la censure, apparaître comme un censeur, et puis il y a le piège aussi d'apparaître comme celui qui veut remettre la main sur l'information.
Oui, c'est pas seulement apparaître. En fait, ce qui nous concerne ici, c'est la défense de la démocratie. Une information de qualité, une information libre qui est faite selon certains standards, etc., c'est consubstantiel à la démocratie. Une démocratie n'existe pas sans cette information-là. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est abîmer cette démocratie en voulant la défendre avec des mesures qui seraient pour le coup liberticides. Et c'est pour ça que je crois plus à la piste de renforcer la résilience des populations, mais à réguler aussi les réseaux sociaux pour qu'ils redeviennent en quelque sorte des environnements dans lesquels toutes les voix comptent de la même manière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, des campagnes de désinformation sont organisées et joue sur les mécanismes de personnalisation des contenus, des réseaux sociaux, etc. Donc la concurrence est biaisée en faveur, si vous voulez, de la désinformation. Et c'est rétablir une situation dans laquelle l'information de qualité, produite selon certains standards, puisse réapparaître avant les autres types d'informations.
Alors, on arrive déjà pratiquement à la fin de notre débat, mais Thomas, je voulais qu'on revienne sur l'expérimentation que vous avez menée. Donc, c'était avant les élections européennes de 2019, et c'était avec des étudiants de Sciences Po, pour voir comment, justement, se fabriquait l'opinion.
Mais l'idée de ce film, c'était, on était juste après la crise des Gilets jaunes, et effectivement, je crois que pendant la crise des Gilets jaunes, on est nombreux à avoir, en s'informant sur les réseaux sociaux, vécu dans des mondes parallèles. Moi, par exemple, je ne voyais sur mes réseaux sociaux que des Gilets jaunes complotistes d'extrême droite qui faisaient des choses horribles, qui disaient des trucs horribles, et j'ai plein de gens dans mon cercle proche qui voyaient plutôt une autre vision des Gilets jaunes, qui était de nouvelles formes de mobilisation, de l'investissement politique, de gens qui étaient abstentionnistes traditionnellement, qui s'intéressaient pas à la chose publique et tout. Et donc, ces deux réalités, elles existaient. Il y avait des complotistes chez les Gilets jaunes, et il y avait aussi des gens qui ont tenté de nouvelles formes de mobilisation militante. moi, j'ai essayé d'interroger, après avoir interrogé pendant des années le problème du contenu, c'est-à-dire de la circulation de la désinformation, je me suis posé la question, mais est-ce que le problème, finalement, c'est pas Facebook? Je dis Facebook comme on pourrait dire frigidaire à la place de réfrigérateur. Hein. Ben oui, Facebook, c'est le plus gros. C'est 3 milliards d'utilisateurs sur la planète, c'est plusieurs réseaux sociaux différents. Donc, quand je dis Facebook, là, dans cette explication, je veux dire les réseaux sociaux en général. Et nous, on a travaillé sur le réseau Facebook parce que c'était le plus utilisé à l'époque. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé 6 profils sur les réseaux qui étaient occupés par des étudiants qui essayaient de documenter non pas ce que les communautés militantes fabriquaient comme contenu en ligne, mais de regarder ce que la plateforme Facebook leur montrait comme information. On avait un profil insoumis, un profil Macron, un profil Rassemblement National, un profil républicain, un profil gilet jaune et un profil gauche avec, à l'époque, ce conflit entre Benoît Hamon et Raphaël Glucksmann. Et le problème qu'on a, nous, constaté sur 3 mois dans lesquels ces profils ont observé ce que Facebook leur montrait de la réalité, c'est qu'on n'a pas un seul contenu commun aux 6 univers qu'on a créés. C'est-à-dire qu'on a des jeunes étudiants qui vivent dans la même ville, qui s'intéressent à la chose publique et qui ont grosso modo 70% de leur profil qui est commun et 30% qui est différent parce qu'il a une orientation politique, ce ne sont pas des militants, ils publiaient rien, ils regardaient ce qui se passait. On n'a pas un seul contenu qui est commun. Et pire, à un moment de crispation de l'actualité, à un moment où il se passe quelque chose que non seulement les réseaux sociaux nous montrent, mais que tous les médias français, mais de la planète, observent, l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Oui.
On a l'incendie de Notre-Dame de Paris, et là, immédiatement, moi j'écris aux étudiants et je leur dis, regardez ce qui va se passer sur vos réseaux, ça va être quelque chose de très intéressant. Et ben là, on n'a pas seulement 6 univers différents, on a 6 univers contradictoires. Chez les insoumis, et ben c'était horrible cette histoire de Notre-Dame, parce que les riches, qui ne veulent pas payer d'impôts, voulaient tous rembourser les travaux de Notre-Dame. Chez le Rassemblement National, c'était un coup de terroristes musulmans. Chez Macron, c'était un coup des gilets jaunes. Chez les gilets jaunes, c'était un coup de Macron. Chez les Républicains, on pleurait le drame des chrétiens qui avaient perdu ce symbole. Et entre Glucksmann et Hamon, dans cet univers, ils sont même pas rendus compte que Notre-Dame avait brûlé, ils ont continué à s'engueuler. Donc on était vraiment dans un truc qui était très problématique pour nos démocraties, non pas sur la qualité de l'information, non pas sur la qualité des contenus, mais sur le fait que une démocratie, c'est aussi partager un certain nombre de choses. Si nous pouvons vivre avec des vérités différentes et avec des idéologies différentes et avec des choses qu'on pense qui sont totalement différentes, des croyances différentes, c'est parce que nous partageons un point de départ. Ce point de départ, ce sont les faits. C'est comme si sur cette table qui est entre nous, nous posions ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord. Eh bien, quelque part, ce nouvel univers de l'information dans lequel nous sommes tous mis, même ceux qui ne sont pas inscrits sur les réseaux sociaux, ils sont victimes de cette segmentation de l'opinion à laquelle on assiste, et bien quand on ne partage plus rien, on ne peut plus faire société. Et en réalité, le vrai problème auquel on est confronté aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir, c'est ça. Comment on refait du commun? Comment est-ce qu'on refait quelque chose qui nous permet peut-être de nous engueuler, mais au moins de partager un point de départ et potentiellement d'arriver à continuer à discuter? Quand on ne partage plus rien, on ne peut pas discuter, on ne peut pas débattre, et à la fin, on ne peut pas vivre ensemble. La nature humaine, elle a tendance à remplacer ses positions de débat, de discussion, de dialogue par une logique de l'affrontement. Et quand on rentre dans une logique de l'affrontement, et ben ça devient absolument destructeur pour la société. Je crois que la campagne américaine de cette année de 2024 va nous montrer un exemple de cela. On a 2 camps qui sont ultra polarisés, qui ne partagent presque plus rien de leur point de départ qui permet de construire leurs opinions et leurs orientations. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer, non pas dans la plus grande démocratie du monde, mais peut-être la plus importante, c'est les Indiens, hein, la plus grande démocratie du monde, même plus grande que l'Indonésie, dont tu parlais tout à l'heure, Camille. Mais je crois que le vrai problème auquel on est confronté, c'est ça. C'est que ces réseaux devaient, quelque part, nous permettre de nous rassembler et de créer de la discussion. En réalité, ils ont fractionné la société et ils sont en train de détruire la démocratie. Et c'est ça le vrai problème qu'ils nous posent. C'est pas qu'ils laissent circuler des mensonges, il y en a toujours eu. C'est pas qu'ils laissent les gens dire n'importe quoi. Tout le monde a toujours dit un peu n'importe quoi. Ça se passait plutôt au café du commerce et comme on avait tous un coup dans le nez, à la fin, le lendemain matin, on s'en souvenait pas toujours. Là, ça reste. Le truc reste en place. Et il est poussé par des algorithmes qui cherchent en plus à capter notre attention. Donc il y a un autre jeu trouble derrière tout ça, c'est que pour arriver à nous maintenir connectés à ces plateformes, on nous montre plutôt des choses choquantes, plutôt des choses clivantes, plutôt des choses qui font appel à nos émotions, à la colère, à l'indignation. Et donc c'est toute cette espèce de mécanique-là qui nous ramène quelque part
justement en prenant conscience de cette mécanique, en la découvrant, comme là vos étudiants qui ils ont mis le doigt vraiment sur quelque chose de très concret, on progresse, on apprend à s'en servir, on peut sortir de ces mécaniques.
Mais je voulais, oui, mais parce que c'était que 6 hein, malheureusement, bah, oui, on est 70 millions hein.
Là on est un petit peu plus nombreux peut-être à nous écouter,
peut-être.
Romain, vous vouliez réagir, et puis je voulais, parce que ça va être un peu un dernier tour de table quand même, vous demander comment on se prépare justement là sur le registre de la formation, dans le cadre de cette échéance électorale européenne. Comment est-ce qu'on se prépare? Et j'ai un peu posé la question, personne n'a répondu. Est-ce qu'on doit, nous aussi, Europe, jouer ce jeu de la désinformation face à ces ingérences étrangères?
Je crois qu'en complément de tout ce qui a été dit, parce qu'on a à peu près tout dit à nous quatre, mais il y a quand même une question qui reste fondamentale, c'est comment est-ce qu'on occupe le terrain et comment est-ce qu'on va parler à tout le monde? Quand je dis « on », c'est les producteurs de contenu fiables, pour pas qu'il y ait de même qu'on parle parfois de territoires perdus de la République, des territoires perdus du numérique. Un des enseignements structurels sur les premières éditions de notre baromètre de l'esprit critique à Universcience, c'est qu'il y a quand même... alors, on voit des polarisations, pas forcément en termes d'âge, mais en termes de... quand on combine âge, sociodémo, etc. Par exemple, quand on regarde le rapport à la science et à l'esprit critique, c'est-à-dire qui sont ceux qui pratiquent, qui semblent avoir le... plus faire preuve d'esprit critique, être prudent dans leur usage des médias et s'intéresser à l'actualité scientifique, c'est un profil qui est plutôt masculin et qui est plutôt dans les centres urbains. Et en revanche, plus on va dans les périphéries, plus on va sur des personnes qui sont plutôt de sexe féminin, de faible niveau d'éducation, faible niveau social et plus âgées, et plus on a un éloignement sur tous ces critères-là. Donc on voit qu'il y a des vraies problématiques de rupture sociodémographique, de territoire, qui rejoignent d'ailleurs des choses qu'on voit en politique plus globalement. Donc la question aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à occuper tous les territoires et aller parler à tout le monde. Et là-dessus, il y a, j'ai dit ce qui ne marchait pas, mais il y a aussi des initiatives formidables. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler sur TikTok d'un média qui s'appelle Curieux? C'est aujourd'hui...
Thomas, oui.
Alors toi, tu connais, parce que tu connais tout, Thomas, mais c'est aujourd'hui, peut-être, la plus grosse chaîne de médias sur TikTok. C'est devant les médias français, et en fait, c'est un compte qui a été créé par un collectif des animateurs de centres de sciences du sud-ouest de la France, donc des structures du type d'Universcience, et qui ont, tirant parti de tout ce qu'on a vu, qui ont dit, OK, il faut être présent sur TikTok. Ils y sont allés tôt, et c'est aujourd'hui une chaîne qui a, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais des millions d'abonnés, qui cartonne. Et pourquoi? Parce qu'ils produisent des vidéos amusantes, mais sur des sujets de science sérieux. Et donc, ça marche. Mais ils jouent le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec des moyens, je pense, bien moindres que des gros médias français, ils ont beaucoup plus d'abonnés. Donc, on voit que ça peut fonctionner. Mais il faut jouer le jeu. Et encore une fois, si on n'occupe pas le terrain, d'autres l'occuperont. Il faut
essayer
d'être prêt à parler avec les codes qui sont efficaces sur ces plateformes.
Je fais tourner la parole, c'est la fin de cette émission là, sur ce sujet. Laurent,
Peut-être juste pour répondre directement à votre question, non, je ne pense pas que les démocraties libérales doivent riposter avec l'arme de la désinformation face aux attaques qu'elles subissent. Je ne pense pas que ce soit une piste à suivre, parce que c'est un jeu dangereux. Les démocraties vivent sur la notion de confiance entre les institutions et les citoyens, confiance qui doit être réciproque, confiance qui est aujourd'hui abîmée, ce qui fait que nos démocraties sont abîmées. Mais si nos démocraties se mettent à produire de la désinformation à l'égard de populations étrangères comme ça peut être le cas à notre égard, je pense qu'on peut abîmer ce lien de confiance aussi, parce qu'on n'utilise pas ces armes-là dans la guerre informationnelle. Je ne pense pas que ce soit à nous de le faire. Après, je parle dans la situation d'aujourd'hui. Évidemment que dans un contexte encore plus dégradé, dans un contexte de guerre, etc., on rentre dans un autre régime de fonctionnement, et là, l'information devient une arme, j'ai envie de dire, comme les autres. Mais on n'en est pas là pour l'instant, espérons qu'on n'y soit pas avant longtemps. Et dans ce contexte, non, je pense que ça serait une erreur de le faire. Et d'ailleurs, ça serait aussi casser la possibilité d'exiger de la part des plateformes qu'elles respectent les exigences qu'on leur impose. Puisque si nous-mêmes, démocratie, nous mettons à diffuser de la désinformation et de l'ingérence à l'égard d'autres pays, ils vont simplement nous rétorquer, arrêter déjà de le faire, et ça améliorera un peu le problème.
Camille.
Très rapidement, la Commission va publier incessamment sous peu des recommandations justement pour cette période électorale. Et moi, j'étais au lancement d'un rapport de l'OCDE sur la désinformation.
Ah bah oui, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a eu un super thread de David Coulon là-dessus. Ouais.
Voilà, avec David Coulon. Et puis il y avait notamment Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, qui était présent et qui disait justement sur ces... pour revenir sur la prise de conscience des ingérences étrangères, que pour eux, leur stratégie, c'est de les dénaturer en les rendant publics. Et c'est une stratégie qui a son mérite, à voir si ce sera suffisant. La Commission européenne va donc publier certaines lignes directrices dont on vient de contribuer. Et après, juste pour revenir, si on se recule un peu, je pense qu'il y a une chose qu'il va falloir adresser à un moment, c'est l'ouverture des espaces démocratiques face à des espaces fermés dans des régimes autoritaires qui bénéficient, en quelque sorte, de l'ouverture des démocraties. Et de la même façon que certains États peuvent jouer avec le débat public en France, en Europe et ailleurs, nous, c'est beaucoup plus difficile, tout simplement parce qu'en Chine, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook. Donc, à un moment, il faudra peut-être trouver des accords internationaux, de la même façon qu'il y a des accords sur le libre-échange, mais peut-être des accords sur l'échange de l'information entre États. Merci beaucoup.
Allez, Thomas, juste un mot.
J'essaie de vous faire très court, mais quand on parle d'occuper le terrain, eh ben, je crois qu'effectivement, l'un des vrais problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est la conséquence du fait que les pouvoirs publics, les grands partis politiques, les grands médias, les journalistes professionnels n'ont pas voulu aller sur Internet et n'ont pas voulu utiliser cette techno. On n'a pas voulu l'utiliser, ça a été récupéré. Et en fait, ce qu'ont gagné nos adversaires, entre guillemets, c'est la bataille technologique et donc derrière la bataille éditoriale. Moi, j'ai décidé de faire un truc un peu différent, là, en ce moment, c'est de créer un moi en deepfake, donc j'utilise l'intelligence artificielle pour fabriquer beaucoup plus rapidement des vidéos de contre-discours qui vont venir répondre dans le temps de la diffusion du mensonge aux théories du complot et aux fake news qui circulent. Donc on essaye de faire de nouvelles choses, on essaye d'utiliser ces technologies, et je crois que moi, ma réflexion, elle vient vraiment du fait que j'ai l'impression qu'on a perdu cette bataille parce qu'on n'a pas voulu aller sur le terrain, et donc j'ai décidé d'aller occuper ce terrain. J'espère qu'on sera nombreux à le faire. Je précise juste un truc, c'est que si c'est bien un faux Thomas Huchon qui vous parle dans ce compte Twitter, anti-fake news, AI, les mots de cet avatar sont tous humains et sont le fruit d'enquêtes réalisées par des humains. Et je crois que c'est aussi ça qui fait la vraie différence, c'est de conserver l'esprit critique, mais d'être capable d'utiliser ces nouvelles technologies et d'essayer de retourner l'arme contre celui qui l'utilise contre nous.
Merci Thomas Huchon, Romain Pigenel, Laurent Cordonnier, Camille Grenier. Et merci aussi à la Réal, c'était aujourd'hui Stéphane Seroussi. Allez, Pollen sera de retour dans une semaine pour de nouveaux débats politiques et numériques. Et puis pour ne rien rater, surtout mettez Pollen dans vos favoris. À très vite.